Alors, bonjour. J'aime ça parler en premier parce qu'après ça, je suis stressée et je peux bien écouter ce que les autres disent. Un papa. Moi, je suis gâtée parce que j'ai eu un bon papa. Il n'était pas parfait, mais il avait des belles qualités. Puis, dans la Bible, on a toutes sortes de... Vous savez, la Bible, c'est pas des gens parfaits qui étaient dans la Bible. Il y a des beaux modèles de pères, puis il y a des moins bons modèles de pères. Alors, on peut regarder autour de nous aussi. Il y a des bons modèles de pères, puis il y en a des moins bons modèles, puis on apprend des deux. Quand on voit des mauvais modèles, on dit, « Ben, ça, je pense que je ne ferai pas ça. » Parce que je vois ce que ça donne, puis je ne me sens pas à l'aise avec ça du tout. J'aime pas ça, les résultats. Puis les bons modèles, ben, on est appelé à les suivre. Puis, malheureusement, ben, j'ai à cœur de vous le partager parce qu'on est tous chrétiens ici. Puis, des fois, on pense que parce qu'on est chrétien, nos enfants vont suivre Dieu, mais ce n'est pas toujours le cas. Ce n'est pas juste notre responsabilité, mais il y a une partie de responsabilité qui revient au père quand même. Puis, je pense à Élie. Qui a quand même aidé le prophète Samuel à grandir dans la foi. Puis la Bible nous dit que ses enfants, ils faisaient toutes sortes d'affaires d'offense à Dieu, de vraiment pas respecter Dieu, de pas du tout l'honorer, puis ils ne faisaient pas grand-chose. Il les laissait faire. Puis quand ils étaient rendus assez vieux, bien là, il leur disait, mais eux autres, les mauvais plis étaient pris, puis ils n'ont pas changé, puis ça a mal fini leur vie, puis lui aussi, sa vie, elle a mal fini à cause de ça. Mais moi, ce qui me frappait là-dedans, c'était que c'était des parents, c'était un père qui a peut-être pas, dans un jeune âge, assez insisté pour le respect qu'on doit à Dieu quand on est petit, d'insister que c'est important, le respect de Dieu, c'est important que ça s'apprenne jeune aussi, pour que ça soit développé plus tard. Puis un autre, malheureusement, c'est Samuel, qui lui, pourtant, il était élevé avec les fils d'Élie. Donc, il aurait pu mal tourner, mais Dieu, dans sa grâce, Anne, elle l'avait déjà promis, mais quand même, lui, il a marché avec Dieu, il était le prophète de Dieu. Malheureusement, il n'a encore pas vraiment bien encadré ses enfants. Je trouve que les pères ils ont un rôle important au niveau de l'encadrement. Puis, en même temps, c'est une pierre à deux tranchants parce que les pères, ils sont très forts. Ils ont une agressivité, pas, je dis pas un terme négatif, là, mais une agressivité, comme on dit, un joueur de hockey, il est agressif, il joue avec passion, avec force. Alors, souvent, les hommes, les pères vont avoir une agressivité, mais il faut pas que ce soit démesuré, hein. Souvent, on entend parler, hein, moi, j'ai été battue par mon père, il me battait, mon père, il me frappait, il me criait après. Donc, il y a l'encadrement que certains pères, peut-être, font pas, peut-être qu'ils ont peur de leur propre colère ou de leur propre violence, puis ils ont peur de dépasser, puis il y a mieux rien faire. Il y a ce risque-là. Mais les enfants, ils ont bien besoin d'encadrement. Mais pour parler d'un modèle positif qui, moi, me touche beaucoup, c'est une histoire dans le Nouveau Testament qui nous est racontée par Jésus. Puis ça nous parle d'un père. Mais quand Jésus nous raconte l'histoire, c'est pas pour nous dire, oh, regardez, ça c'est un bon père, puis faites comme lui. Mais je prends la permission d'utiliser le texte à un autre usage, parce qu'on voit quand même la beauté de du cœur de ce père-là. Et puis, c'est l'histoire du fils prodigue. Je ne sais pas comment vous vous sentez quand vous lisez cette histoire-là, mais moi, je me dis toujours, aïe, 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 mon doux, j'aimerais ça qu'il soit mon père, cet homme-là. Parce qu'on fait tous des bêtises, comme le fils prodigue en a fait, puis il a été reçu tellement bien. Puis, le secret, juste pour vous relire, pour ceux qui sont peut-être moins familiers ou que ça fait longtemps que l'histoire est loin d'eux, le plus jeune fils a demandé à son père, « Donne-moi la part de notre fortune qui doit me revenir. » Donc, le père a partagé ses biens entre ses deux fils. Puis ensuite, le plus jeune est parti, a vendu sa part, puis est parti avec son argent pour un pays éloigné. Puis quand il a eu tout dépensé, il a eu une grande famine, il a voulu revenir. Puis il s'est dit, gars, ça n'a pas d'allure, les serviteurs de mon père sont bien mieux que moi. Je vais retourner. Puis il dit, je vais partir, puis je vais dire à mon père, j'ai péché contre Dieu, contre toi, je ne suis plus digne que tu me regardes comme ton fils. Traite-moi donc comme l'un de tes serviteurs. On voit vraiment qu'il s'est repenti. Et c'est quand même humiliant, on peut penser, hein, de revenir. Et c'est sûr qu'ici, dans le contexte, Jésus raconte ça pour dire qu'il ne met pas personne dehors. Dieu ne va pas mettre personne dehors. Puis ceux qu'on considère le plus à part, le moins attirant, bien Dieu il les veut, ces gens-là. Il attend juste qu'eux reviennent à la maison, comme ce fils-là. Mais je pense que le passage que je trouve le plus touchant, c'est « Tandis qu'il était encore assez loin de la maison, son père le vit et en eut profondément pitié. Il courut à sa rencontre, le serra contre lui et l'embrassa. » Et je pense que c'est important pour les pères de voir au-delà des apparences. Donc, le père, en voyant son fils arriver, il aurait pu avoir toutes sortes de réactions. Je vous en demanderais, puis vous me diriez comment vous auriez réagi à place du père. Bon, c'est bien, il est pogné, il n'y a plus rien. On va en parler, voir de son héritage, on l'a la liste. Mais non, le père, il trouve qu'il fait pitié. Il trouve qu'il fait pitié, il a pitié de lui. Mais en même temps, il est content qu'il soit revenu. Mais je pense, d'une même façon que les pères sont appelés à encadrer leurs enfants, ils sont aussi appelés à faire preuve de tendresse et de compassion, comme on voit dans l'exemple ici, et de ne pas juste voir en surface pourquoi l'enfant réagit comme ça. Des fois, les actions, ça révèle autre chose. Mais le père, ici, il est attentif à aller voir un petit peu plus loin, puis à comprendre, puis à être saisi de compassion pour son fils. Puis, ça l'a tout fait changer ses actions. Donc, comment son cœur était, ça lui a un impact sur son comportement, sur ses actions. Puis, je vois ici, dans le feuillet que Michel avait mis, comme un père est rempli de tendresse pour ses enfants. Donc, c'est pas parce qu'on est un père qu'on n'a pas de la tendresse, nécessairement. Donc, il y a des qualités dont la Bible nous parle, où on voit les pères à l'œuvre avec ces sentiments-là. C'est ce que je voulais vous laisser. Bonne fête des pères.
Merci, Claire, de nous avoir caractérisés comme des pères, peut-être, qui sont un peu, comment dirais-je, comment tu l'as dit, un peu agressifs, mais parce qu'on veut peut-être bien faire, puis on se retrouve parfois dans nos faiblesses. Et moi, effectivement, je me demandais ce matin, en fait c'est pendant la semaine, je me demandais qu'est-ce que je pouvais partager aujourd'hui à l'occasion de la fête de mon père. Puis je me suis demandé l'héritage que j'ai reçu de mon père terrestre et que je continue à recevoir de mon père céleste. Et je me disais, moi comme père, qu'est-ce que je vais transmettre à mes enfants basé sur ce que moi j'ai reçu. Et en même temps, en me demandant ça, je me disais, j'essaie tous les manquements que, en tant que père, j'ai, et parfois cette lutte que j'ai en disant que j'essaie de faire de mon mieux. Puis, malheureusement, je suis maladroit. Et je me posais alors cette question. Vraiment, cette image m'est venue. Et comment faire face à ces manquements, ces lacunes, et même si tout ça est rempli de bonnes intentions pour un père qui veut transmettre quelque chose de bien à ses enfants. Mais j'étais un peu, comment dirais-je, en réfléchissant sur ça, je me demandais, mais Seigneur, oui, je sais, je suis maladroit, j'essaie de bien faire, puis je ne fais pas bien. Et là, c'est comme s'il y a eu un éclairage où le Seigneur m'encourageait. Et je voulais simplement partager cet encouragement que j'ai trouvé dans le livre des Proverbes. Alors, si on tourne dans Proverbes 2, ici. Je vais peut-être lire simplement pour gagner du temps. Alors, le premier que je vais lire, c'est Proverbe 2, à partir du verset 1. Mon fils, si tu reçois mes paroles, et si tu gardes avec toi mes préceptes, si tu rends mon oreille attentive as la sagesse, et si tu inclines ton cœur à l'intelligence, oui, si tu appelles la sagesse, et si tu élèves ta voix vers l'intelligence, si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel, et tu trouveras la connaissance de Dieu, car l'Éternel donne la sagesse, de sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. Et je dois avouer que quand j'ai lu ça, ça m'a vraiment beaucoup encouragé en me disant que j'étais sur la bonne voie et que je devais continuer à rechercher ces trésors que le Seigneur a mis dans mon cœur et le chérir. Un autre verset, série de versets qui m'a que je trouve intéressant pour la fête des pères et qui m'a encouragé. Donc je dirais que cette série de versets que je viens de lire, je les qualifierais comme une promesse que j'ai reçue dans mon Père céleste pour que j'exerce mon rôle de père. Donc dans Proverbes 4, 1, 3, on peut lire « Écoutez mes fils, l'instruction d'un père. Et soyez attentifs pour connaître la sagesse, car je vous donne de bons conseils. Ne rejetez pas mon enseignement. J'étais un fils pour mon père, un fils tendre et unique auprès de ma mère. » Voilà, donc je trouvais que, en tant que père et fils moi-même, ces passages, effectivement, m'encourageaient et que vraiment, c'est, en tant que père, nous avons des responsabilités, mais nous ne sommes pas seuls. Et nous avons cette chance que nous sommes aussi en communauté, communauté chrétienne, où on peut s'encourager les uns les autres et aussi ne pas hésiter vraiment de demander des prières dans nos luttes de tous les jours. Et pour terminer, dans Proverbes 7, 20 à 23, on peut lire « Mon fils, garde les préceptes de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Lis-les constamment sur ton cœur, attache-les à ton cou. Ils te dirigeront dans ta marche, ils te garderont sur ta couche et ils te parleront à ton réveil. Car le précepte est une lampe et l'enseignement une lumière et l'avertissement de la correction sont le chemin de la vie. » Alors voilà un peu ce qui m'a encouragé moi dans mon rôle de père, dans mon rôle, malgré mes lacunes, mes manquements. Dieu me confirme que je ne suis pas seul et il m'encourage. Merci. Bonne fête des pères.
Moi, à travers la semaine qui était vraiment occupée et effrénée, j'ai pris le temps de m'arrêter puis... Quand j'ai pris le temps de m'arrêter puis à méditer là-dessus, qu'est-ce qui me venait, c'était vraiment l'amour de notre Père céleste. Puis à quel point son amour est grand. Puis combien il m'aime, moi. En tant que Père, il nous a donné son seul fils pour nous sauver afin qu'on puisse partager son amour avec lui. Puis je me rends compte que c'était un peu son seul but. C'était pas, tu sais, quand il nous a créés, c'était pas pour le fun, je vais m'amuser, je vais créer des petits humains puis je vais jouer avec. Il voulait partager son amour avec nous, puis c'était son but. Puis, il nous a même appelé ses enfants. Bon. Puis, si on va lire un verset dans Jean qui... Mais deux versets, il y a un verset que Jésus nous dit que Jésus nous aime comme son Père l'a aimé. Puis je suis comme, waouh, Jésus nous aime vraiment beaucoup, puis son Père, il doit nous aimer beaucoup. Puis il y a un autre verset qui dit que le Père nous aime comme qu'il a aimé Jésus. Puis je suis comme, waouh, c'est pas juste... il aime son enfant, ou tu sais, je suis sa création. Il m'aime comme qu'il aimait son propre fils qu'il a donné. Puis, je trouve, autant que c'est un petit verset, c'est quelque chose qui m'a parlé beaucoup cette semaine. Puis, dans ma méditation, c'est vraiment. Ma réponse, c'est vraiment que son amour puisse être en moi aussi. Puis, comme je disais dans Jean 17, qu'on puisse nous aussi partager cet amour-là. Puis il nous a créés pour qu'on puisse faire connaître cet amour-là aussi. Puis ma prière, c'est vraiment qu'il puisse m'aider à, autant qu'on dit qu'ils sont, combien qu'il est large, combien qu'il est grand son amour, combien qu'il est quasiment infini, mais qu'on puisse avoir une petite connaissance de qu'est-ce que ça représente aussi pour nous. Puis je te remercie qu'il ne s'arrête pas à nos faiblesses, qu'il ne s'arrête pas à nos doutes, qu'il ne s'arrête pas à nos péchés. Il est déjà mort pour nos péchés, il nous a déjà pardonné nos péchés. Lui, il s'arrête à son amour pour nous, à qui est-ce qu'on est. Puis je pense qu'il faut le remercier pour l'exemple qu'il nous donne en tant que père. Puis autant pour ceux qui le sont déjà, pour ceux qui vont le devenir un jour. Puis je pense qu'on peut de plus en plus, grâce à son Saint-Esprit, mais avoir cet amour-là en nous, puis le montrer aux autres, puis même aux enfants qui ne sont pas les nôtres, puis être un exemple.
Je vais tricher un petit peu. J'ai un livre de texte édifiant ici. Et je vais vous lire quelque chose qui touche à la question d'être parent. Mais d'abord, Proverbe 17, verset 6. Pardon. Proverbe 17, verset 6, je lis dans la traduction Colomb. Les petits-fils, les petits-enfants, sont la couronne des vieillards. Ça, c'est pas juste pour Michel Houle. C'est pour nous tous. Les petits-enfants sont la couronne des vieillards. Et les pères sont la parure de leurs fils. C'est intéressant, il y a comme... Des fois, dans les proverbes, c'est la même idée qui est répétée, mais là, c'est comme inversé. Les petits-enfants sont la couronne des vieillards et les pères sont la parure de leurs fils. Il y a de la fierté qui va dans les deux sens quand ça va bien. Je vais vous lire une méditation sur ce proverbe que je n'ai pas écrite et que j'ai aussi un peu traduite, pas très professionnellement, en français de l'anglais. Un homme a dit une fois que lorsqu'il rentre dans une salle, avec ses 6 enfants adultes présents et ses 9 petits-enfants, un à un, il se lève et quitte la salle. Il n'y a pas d'hostilité ouverte qui est exprimée. Il n'y a pas d'amertume visible. Personne ne planifie cela à l'avance. Pourtant, il y a quelque chose dans la manière d'être de cet homme qui repousse ses enfants. Par contre, sa femme est constamment au téléphone avec ses enfants et ses petits-enfants. Elle les attire à elle et elle fait sortir la conversation d'eux. Elle les écoute attentivement. Elle cherche toujours des manières créatives et positives de connecter avec leur vie. Elle ne juge pas, elle ne condamne pas. Elle ne donne jamais de conseils opiniâtres. Simplement, elle les aime et elle sert ses enfants. Et quand la famille se réunit, ses enfants et petits-enfants sont attirés vers elle. Comment est-ce possible que deux personnes qui élèvent des enfants sous le même toit ont des relations si différentes avec leurs enfants? Mais les enfants, ce sont des êtres humains, eux aussi. Et de la même manière que les adultes répondent positivement à l'encouragement, l'attention, l'intérêt, l'écoute, les enfants aussi. De la même manière, si les enfants ne ressentent aucun intérêt sincère en eux, ils l'interprètent comme un manque d'amour. Les enfants comme les adultes savent si vous êtes pour eux ou contre eux. Donc, ce n'est pas ce qui arrivait lorsque cet homme rentrait dans la salle qui était important, mais ce qui s'était passé durant les nombreuses années de négligence, de critiques dures, de règles strictes et d'indifférence. Nous pouvons gouverner nos foyers par la grâce ou bien par la loi. Mais la grâce est beaucoup mieux. Et si nous gouvernons nos foyers par la loi, nos enfants auront très hâte pour le jour qu'ils pourront quitter. Alors, dans le passage qu'on a lu dans Proverbe, le mot « couronne » et l'autre mot qu'on avait vu, c'était la parure, hein? Et c'est comme une décoration. Et lorsque nous remplissons notre rôle biblique comme parents, nous devenons quelque chose de beau dans les yeux, aux yeux de nos enfants. Et ils prennent leur fierté en nous. Ils peuvent même se glorifier de leurs parents. Je n'ai jamais rencontré une personne à la retraite qui désire le plus au monde de retourner dans son travail, d'être avec ses anciens collègues. Par contre, quand les gens sont à la retraite, ils veulent être proches de leurs petits-enfants. Pourquoi je vous parle de ça le jour de la fête des pères? J'espère que vous n'êtes pas tout démoralisé. Mais je pense parce que tout le monde qui est ici, au fond, on a à cœur les enfants dans nos vies. Puis si on est père en particulier, moi je vous connais, je connais plusieurs, beaucoup, presque tous, et je sais que vous prenez ce rôle sérieusement. Fait qu'on est fêté aujourd'hui parce que on prend ce rôle au sérieux. Mais c'est vraiment une exhortation que j'ai lue cette semaine avec Cheryl qui me dit, il faut que dans l'année qui vient, il faut que je prenne ça encore plus au sérieux. Parce que mes filles à moi, il y en a une qui va avoir 14 ans dans quelques semaines, et puis ça va vite. Puis quel souvenir est-ce que je laisse qu'est-ce que je peux faire pour l'améliorer encore, hein, en admettant que ce n'est pas tout négatif, qu'il y a beaucoup de positifs, mais qu'est-ce que je peux faire pour que ce que je ne sois pas dans les souliers de ce monsieur-là? Je lance ça aux mamans aussi, puis aux célibataires aussi, qui sont oncles ou tantes ou qui sont bons amis avec des gens qui ont des enfants. Investissez, continuez à investir. Et puis d'être comme Dieu le Père, dans ces relations-là avec les enfants. Et vous serez la couronne de ces enfants-là. Merci.
Proverbe 17:6, hein?
Mais t'es pas un vieillard.
Mais j'ai des petits-enfants, ce qui est nouveau. Et j'ai une parabole aussi. J'espère que ce n'est pas un fait vécu. Et c'est assez cru, c'est assez dur, mais ça illustre très bien un principe biblique, je pense. Alors, je vous partage ça. Il était une fois un vieil homme. Ses mains tremblaient quand il mangeait. Il faisait du bruit avec ses ustensiles. Il ratait la cible constamment en essayant d'amener la cuillère dans sa bouche. Il dribblait avec la nourriture tombée sur son apron ou sur sa bavette. À présent, il vivait chez son fils, n'ayant aucun autre endroit où aller, et la femme de son fils n'aimait pas du tout cet arrangement. « Je ne peux pas accepter ça, » disait-elle. « J'ai le droit d'être heureuse et ça m'empêche de l'être. » Elle et son mari ont décidé gentiment, mais fermement, de l'isoler dans un coin de la cuisine lors des repas. Assis sur un banc, il mangeait avec son assiette sur ses genoux. en convoitant sa place à la table, les yeux pleins de tristesse. Un jour que ses mains tremblaient plus que d'habitude, il fit tomber son assiette et elle se fracassa par terre. Si vous mangez comme un cochon, dit la belle-fille, vous allez manger dans une auge. Et ils lui fabriquèrent une auge en bois dans laquelle il mangeait ses repas à partir de ce moment-là. Ce couple avait un jeune garçon dont ils étaient très fiers. Son père, un soir, a remarqué que son fils jouait intensément avec ses outils dans son atelier et lui demande « Qu'est-ce que tu fais là? » « Je fais une auge, tout souriant, espérant l'approbation de son père. »« Oh, c'est pour grand-papa. » »« Dis non, c'est pour vous nourrir, toi et maman, quand je serai grand. » L'homme et la femme se sont regardés longuement sous le choc et n'ont rien dit. Touchés, ils ont ramené grand-papa à la table, l'ont assis confortablement et lui ont servi sa nourriture dans leur plus belle vaisselle. Et personne n'a plus jamais fait de remarques déplaisantes ni de reproches lorsqu'il mangeait, tout croche, et même lorsqu'il cassait la vaisselle. Cette parabole-là, c'est pour illustrer le cinquième commandement. Est-ce qu'on se souvient du cinquième commandement? Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent sur la terre que Dieu te donne. Paul, dans Éphésiens, il cite le commandement d'Exode, mais il l'a comme interprété un petit peu. Et c'est curieux, c'est le premier commandement. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement dans Éphésiens. Probablement parce que t'as les quatre premiers commandements qui sont adressés à Dieu, je pourrais dire, 1, 2, 3, 4. Et le cinquième, c'est le premier commandement qui s'adresse plutôt dans les relations humaines. Alors, c'est probablement pour ça qu'il le premier commandement qui parle des relations entre êtres humains, si on peut dire, et pas notre relation avec Dieu. Alors, Paul, dans Éphésiens 6, si vous avez vos Bibles, 2 et 3, il dit, c'est le premier commandement, il dit, accompagné d'une promesse, afin que tu honores ton père et ta mère, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps, afin que tu sois heureux. La recette du bonheur. Commandement de Dieu. Pourquoi est-ce que Dieu a donné des commandements? C'est pour qu'on soit heureux. Le but du commandement, c'est pas qu'on se prive, là, pas qu'on soit... Hein? Le but du commandement, c'est qu'on soit... C'est le bonheur. Qu'on trouve la recette du bonheur. Et c'est accompagné d'une promesse. Honore ton père et ta mère. Et la promesse, c'est que tu vas être heureux. Et que tu vas vivre éternellement, si on peut dire. Si on traduisait ça dans notre langage, c'est une façon de parler de la nouvelle vie qu'on a en Dieu. Alors, je pense que c'est un principe universel, ça ne s'adresse pas juste aux chrétiens, mais à n'importe quel être humain, le type de relation qu'on a avec nos parents, ça nous tombe sur la tête. Hein? Le bonheur, ça se transmet de génération en génération. Et ça se transmet comment? Le moyen qui est proposé par le cinquième commandement, c'est l'honneur aux parents. L'honneur aux parents. Ça, sûrement, ça m'a frappé. La façon dont j'ai traité mon père, ça va se transmettre à la génération suivante. Et ça fait réfléchir beaucoup. Hein? Parce que je pense qu'on peut, autant on peut être béni, autant on peut être heureux lorsqu'on applique le cinquième commandement avec la promesse de bonheur, autant on peut être malheureux lorsqu'on ne l'a pas respecté. Ça se peut que ça aille en dégringolant, hein? Même le mot bonheur ou le mot heureux peut être traduit par béni. Et le mot malheureux peut être traduit par maudit. Ça se peut qu'on soit sous la malédiction à cause de la façon dont on a traité nos parents et que nos parents ont traité leurs parents et que nos enfants vont nous traiter. Ça, hein, la malédiction se passe de génération en génération. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on peut briser cette malédiction-là. Hein? Et les enfants de Dieu en particulier qui veulent suivre la parole de Dieu ont ce pouvoir-là de briser la malédiction de génération en génération et de commencer quelque chose de nouveau, un nouveau cycle. Hein? J'ai commencé un petit peu avec mon père et je pense que ça a permis à mes enfants de faire du progrès dans le respect des parents. Et probablement que leurs enfants vont bénéficier de ça aussi. On peut briser, la bonne nouvelle, c'est qu'on peut briser le cycle de la malédiction. Alors, bonheur au fils et à la fille qui honore son père, sa mère. Bonheur à la famille qui honore le père et la mère. Bonheur à la société qui honore la paternité, si on peut dire. Alors ça, c'était méditation, partage. On peut prendre quelques minutes si vous avez quelque chose de brûlant sur le cœur que vous aimeriez le partager. On va prendre quelques minutes pour le faire. Pensez à votre père. Bénédiction, malédiction. Oui. Non, tu devrais être ici parce que ça va être... Ça vaut la peine d'être enregistré, je pense.
Pour moi, en pensant au fait que j'ai grandi dans une famille chrétienne avec mes parents, je peux dire que c'est une bénédiction pour moi d'avoir un père qui suit le Seigneur puis un père qui est dévoué au Seigneur. Puis je crois qu'en même temps, il y a quelqu'un qui m'a déjà dit que en tant qu'un enfant de quelqu'un qui est chrétien ou comme d'avoir grandi dans une famille chrétienne, on a comme une plus grande responsabilité même que nos parents, mettons, comme dans le fait que mon père ou que ma mère il a grandi dans une famille qui connaissait pas vraiment le Seigneur ou en tout cas, ben ma mère ouais puis mon père en partie un peu là, c'est une famille catholique là mettons. Puis mais c'est Jeff Sweet qui m'avait dit ça, il m'avait dit ou je sais pas s'il l'avait dit au groupe ou à moi, mais il avait dit si ton père il a grandi dans une famille qui connaissait pas vraiment le Seigneur, mais que lui est dévoué à ce point-là, toi qui grandis dans une famille chrétienne, puis qui a connu le Seigneur toute ta vie ou qui a entendu parler du Seigneur toute ta vie, t'as encore une plus grande responsabilité, tu devrais être encore plus dévoué parce que t'en as entendu parler plus longtemps, t'as grandi dans ce contexte-là, ce milieu-là. Puis je crois que c'est vrai, puis je crois que pour moi, je peux dire qu'il me donne du fil à retordre. Puis quand on est allé à Bethel avec les groupes de jeunes au mois de février, le gars qui prêchait, il avait sorti le même passage dans Éphésiens 6, là. Puis il a parlé de la responsabilité, mettons, des enfants envers leurs parents. Puis c'est drôle parce que souvent, quand on parle surtout à du monde qui sont plus jeunes, comme quand t'as 14, 15 ans, 16 ans, puis t'es ado, puis t'as le goût de faire ce que tu veux, tu dis, honore ton père et ta mère, puis t'as hâte, en fait, si tu lis ce passage-là, t'as hâte à passer au verset après, qui dit, « Vous, père, n'exaspérez pas vos enfants. » Ça, c'est ce que t'as vu. Puis le gars qui a prêché, il a dit, « Vous, vous avez des responsabilités envers vos parents, puis vos parents ont des responsabilités envers vous. Mais vous, vous n'êtes pas vos parents, fait qu'on n'en parlera pas de ça. » Fait que là, tu vois tout le monde qui fait, oh, man, c'est quoi cette affaire-là, là, tu sais? Puis, mais je crois que c'est bon de. Je me donne la permission de lire le prochain verset parce que ça commence par dire, vous, pères, n'exaspérez pas vos enfants, mais élevez-les en les éduquant et en les conseillant d'une manière conforme à la volonté du Seigneur. Puis, je pense que. Je veux dire que mon père, il nous a bien encouragés, puis il nous a pas trop poussés. Aussi, parce que je vois beaucoup de jeunes qui ont grandi dans les familles chrétiennes, puis que si les parents les ont trop poussés, puis pas donné la liberté à voir c'est quoi le monde, puis voir c'est quoi qui se passe pour vrai, puis t'es obligé de faire ci, t'es obligé de faire ça, t'es obligé d'aller à l'église, t'es obligé de vivre de même. Il y en a que ça les écœure, puis ils comprennent pas pourquoi, puis ça, puis ça les éloigne du Seigneur. Puis je pense que pour moi, c'est une bénédiction d'avoir des parents qui ont été assez sages pour savoir quand nous laisser faire nos affaires, puis quand nous conseiller. Puis Je pense que c'est ça qui a pu faire une différence dans nos vies. Je pense que mon père, il a bien fait sa job, là, tu sais.